Le rêve de surmonter les limites de l'existence charnelle, de s'évader de son corps ou d'en acquérir un autre, est peut-être aussi vieux que l'homme lui-même. Bien des fables et des mythes antiques en témoignent. La question du rapport de l'homme à son corps est plus que jamais la nôtre. C'est une question politique dont nos lois se saisissent périodiquement. Car l'homme des temps modernes s'est convaincu qu'il n'était rien d'autre qu'un produit de sa culture et de ses techniques. Il se veut le fabricant de lui-même et de ses descendants grâce aux biotechnologies et grâce à l'usage de ressources biologiques d'origine humaine. Aux dépens de qui ? Sylvia Nagasinski est ce soir notre invitée à l'occasion de la publication de son dernier opus intitulé « L'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué ». Mais comme chaque soir et particulièrement pour un lundi un peu frisquette, nous allons commencer en musique avec le grand Georges.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Vénus se fait vieille souvent, elle perd son latin devant la lèche frite. À aucun prix moi je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. On leur ôte bien des attraits en dévoilant trop les secrets de Mélusine. L'encre des billets doux pâlit vit entre les feuillets des livres de cuisine. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Il peut sembler de tout repos de mettre à l'ombre au fond d'un pot de confiture la jolie pomme défendue, mais elle est cuite, elle a perdu son goût nature. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. De servante n'est pas besoin, et du ménage et de ses soins, je te dispense. Qu'un éternel fiancé à la dame de mes pensées, toujours je pense. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Alors voilà, Georges Brassens, pour commencer cette émission. J'ai dit tout à l'heure qu'on était lundi, mais non, on est mardi avec ce long week-end. Je suis toute tourneboulée. Tourneboulée aussi par cette chanson de Georges Brassens, magnifique, qui finalement fait écho à votre propre existence quand vous étiez très jeune. J'imagine, Sylvia Nagasinski, qu'ils ont été nombreux à vous courtiser, les garçons. Y en a-t-il qui ne vous ont pas demandé votre main tout en vous disant, peut-être pour vous, grande preuve d'amour, « Eh bien, je ne vais pas te demander ta main parce que je t'aime. »
D'abord, merci d'avoir passé cette merveilleuse chanson de Brassens. C'est un vrai chant d'amour. Je suis heureuse de la réentendre parce que Brassens comptait beaucoup pour moi, effectivement, dans ma jeunesse. C'était le poète et c'était aussi une musique, comme on l'a entendu là, avec l'accompagnement de Pierre Nicolas, qui est magnifique. Mais c'est aussi une musique vraiment très subtile. Il y a plein de jazzmen qui reprennent maintenant des mélodies de Brassens pour en faire autre chose. Et ce sont des mélodies très riches. Et puis pour moi, alors cette chanson, mais beaucoup d'autres aussi, je ne les prends jamais. On a reproché à Brassens, bon, le pornographe, l'anarchiste, mais comme c'était pas du tout un idéologue, c'était vraiment le poète. Il me procure un plaisir qui, bon, on va pas comparer les deux auteurs bien sûr, mais qui pourrait à certains égards faire écho à celui que me donne La Fontaine, par exemple, à cause de l'invention verbale extraordinaire, ne pas effeuiller la marguerite, enfin, dans le pot-au-feu, c'est extraordinaire. Mais à l'époque de ma jeunesse, les garçons de mon âge étaient exactement comme les filles. Ils pensaient pas du tout au mariage. C'était pas très à la mode. On était quand, et c'est ce que j'aimais aussi chez Brassens. Encore une fois, faut pas l'entendre comme un idéologue, mais c'était l'anticonformisme. On était quand même avant 68, mais déjà dans ma génération, assez anticonformiste pour ne pas voir dans le mariage et dans l'exemple de nos parents ou de nos amis ou des parents de nos amis un modèle qu'on avait forcément envie de suivre. Et je me souviens que les uns et les autres, on pensait à une vie libre et le modèle familial n'était pas du tout ce qui dominait. On ne faisait pas sa cour en promettant le mariage et on était plutôt sur cette... Sur ce champ d'amour et de liberté.
Mais rares ont été les filles qui, comme vous, Sylvia Nagasinski, sont devenues, comme on le disait à l'époque, avec ce mot qui stigmatisait, fille, mère.
Oui, moi je dis souvent, j'ai fait beaucoup de choses dans le désordre. Et pendant très très longtemps, je me suis mariée, j'avais 40 ans. J'ai eu un enfant avant et j'avais un idéal qui était, c'était même pas un idéal, j'avais une nature passionnée. Donc pour moi, ce qui comptait, c'était la passion, c'était l'amour avec toutes les vicissitudes qu'on voudra. Tant pis s'il fallait payer les choses chères, c'était, je dirais, l'intensité. Mais au fond, j'ai pas tant changé.
Et autour de vous, quand vous avez attendu votre fils qui est devenu lui aussi philosophe comme vous et qui est très brillant aujourd'hui. Est-ce que vous avez vécu l'opprobre, la stigmatisation? Aujourd'hui, on dit plus fille-mère, heureusement. On dit mère célibataire.
Non, mais
et c'est devenu banal. Mais à votre période, ça ne l'était pas tellement.
Même à l'époque. Mais si vous voulez, ça c'est peut-être mon côté Brassens. Je me suis aperçue de rien, mais le « quand dira-t-on » n'était pas mon... me préoccupait pas du tout. Et donc, pour moi, il y avait des nécessités à un moment donné. Ce n'est pas toujours facile. La nécessité, ça a toujours été la liberté, l'intensité. La nécessité, oui, moi, je suis, de ce point de vue-là, plutôt spinoziste. Il y a des moments où on ne peut pas faire autrement que ce qu'on fait. Et c'est au moment où les choses s'imposent comme absolument nécessaires, incontournables, qu'on est le plus libre.
Comment est né, à l'intérieur de votre parcours, l'amour de la philosophie?
Alors, l'amour de la philosophie, c'est l'amour de la vérité, hein, c'est l'amour de la sagesse, dit le terme philosophie. Alors, la sagesse, c'est un mot qui paraît bien ancien, mais qui m'a toujours été très cher. Il y a une recherche quand même de la sagesse par opposition à la déraison, au délire. Intensité, oui, l'amour, oui, la ferveur, oui, le délire, non. Et la philosophie, bon, s'est imposée à moi en première, puis en terminale, puis avec le choix des études. J'avais un choix d'ailleurs entre deux passions à l'époque, c'était le théâtre d'un côté et la philosophie qui m'a davantage happée, retenue. Parce qu'il y avait une exigence au fond du discours vrai. Vous voyez par exemple, quand on compare justement... comment dire, la place de la vérité dans la vie, la fiction au théâtre, le jouer à. Je pense que beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents, ont rêvé de faire du théâtre pour être plusieurs, pour avoir plusieurs vies, plusieurs discours, plusieurs places, plusieurs rôles. Donc. Et j'ai eu ce rêve à un moment. Et je me suis engagée à un moment donné avec ma sœur, on a fait partie d'une troupe d'amateurs, puis le conservatoire de Lyon, on habitait à l'époque. Et puis tout à coup, en même temps que je faisais de la philosophie, il y a quelque chose qui était de l'ordre du « mais qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Est-ce que je parle en mon nom propre ?» Et non, je suis à la place de quelqu'un d'autre et finalement, jouer, devenir acteur, et c'est ce qui m'a conduit vers la lecture de Kierkegaard d'ailleurs, ça n'est jamais que devenir acteur. C'est pas être tantôt celui-ci, tantôt celui-là. Et la question de la vérité... elle s'est imposée à moi aussi, et notamment plus tard, mais déjà un peu avec la lecture de Kierkegaard, c'est pas seulement la vérité, dire la vérité, c'est aussi vivre dans la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire que vivre dans la vérité? Mais question existentielle. Quelque part, je crois que Michel Foucault dit « je n'ai jamais posé d'autres questions que des questions existentielles ». Je pense que dans ma jeunesse, alors ça peut passer pour certains, mais ça s'imposait la question existentielle, c'est-à-dire comment peut-on vivre? Comment doit-on vivre? Dans quelle vérité peut-on vivre? Et du coup, on se met à chercher à ce moment-là et à apprendre et à chercher des maîtres. Le mot maître est un peu passé de mode. Je lisais dernièrement le livre de Thomas Mann sur les maîtres où il est question successivement de Nietzsche, de beaucoup d'autres. Nietzsche, dont il est très critique d'ailleurs, mais c'est pas un très bon maître pour lui, Nietzsche. Mais le fait de se consacrer en l'étudiant, donc en choisissant inévitablement la voie des études de philosophie et finalement de l'enseignement, parce qu'il n'y a pas le choix quand on veut faire de la philosophie, on n'a pas beaucoup de possibilités, autre que l'enseignement, mais d'abord, être d'abord celui qui étudie et qu'on reste toujours d'ailleurs, même jusqu'à la fin de sa vie, je pense qu'on continue d'étudier aussi. Et l'obligation de passer par les maîtres, qu'ont-ils dit, ceux qui sont opposés à cette question? Et là, évidemment, on plonge dans l'eau et on se noie, on barbote pendant assez longtemps. On barbote pendant assez longtemps, parce que passer de la vérité au sens de Platon à celle d'Aristote et puis de Descartes, la vérité c'est la certitude, c'est l'exactitude de ce que l'adéquation, c'est une autre conception de la vérité. Finalement, la philosophie c'est ça, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on appelle vérité. Pas seulement où est la vérité, mais qu'est-ce qu'on appelle la vérité? Est-ce que c'est l'idée éternelle opposée au temporel, comme chez Platon? Est-ce que c'est la vérité de l'expérience? Est-ce que c'est la vérité dans les sciences? Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps où on ne croit plus guère à d'autres vérités qu'à celle qui est dans les sciences. Et donc, on met très longtemps à trouver des voies. Alors, il y a les maîtres dans les textes, il y a les professeurs, il y a ce qu'on lit de son époque. Mais je crois finalement que on ne se met à penser un peu plus authentiquement que quand la question, on se la pose d'abord à soi-même et qu'ensuite on cède des textes, des contemporains, des anciens. Mais il faut que la question soit vécue. Ça, c'est non seulement kierkegaardien, ce qui est le premier penseur au fond de ce qu'on appelle les pensées de l'existence, mais qui aussi, chez Heidegger, qui disait à ses jeunes étudiantes, il faut exister dans le problème, il faut vivre, au sens de l'existence, le problème pour chercher la voie. Si on part d'un auteur, pour dire alors qu'est-ce que, comme on fait quand on est étudiant, et on part de sa problématique, on y reste. Et plus il est puissant, plus on y reste. On est en forme, c'est très solide, c'est ce qui est admirable dans le discours philosophique. C'est sa structure, c'est sa force de cohérence. La philosophie, c'est sûrement le discours le plus cohérent, et le moins partiel, parce qu'il essaie d'embrasser le monde, la vie, l'être humain, etc. C'est le discours le plus cohérent, et les grands philosophes sont tous très cohérents. Ils ont leur cohérence. Donc, on s'y plonge, on y reste. On peut pas en sortir. Si on part de son problème, de l'existence, que ce soit ce que j'ai rencontré à certains moments, comme le rapport du langage à la vérité, mais ça c'est très très classique, ou aussi, qu'est-ce que c'est être une femme, puisque ça a été ça. Et pourquoi je ne suis pas dans le discours philosophique si ce n'est sous la forme toujours de l'autre et de la différente? Et moi, je crois que je vais faire de la philosophie, mais je ne suis pas dans ce discours. On avait fait un groupe de recherche sur les femmes dans la philosophie à l'école normale, où je suivais en auditeur libre d'ailleurs. Il y avait Elisabeth de Fontenay, il y avait un certain nombre, il y avait Sarah Kaufman. Et j'avais commencé par un exposé complètement fictif au début. Je disais que j'avais retrouvé un exégète d'Aristote, un Anglais. Alors j'avais imaginé une édition et tout ça, qui avait pu établir que Aristote était une femme. Et alors je disais, est-ce que c'est pensable? Est-ce que c'est possible? Et après je montrais pourquoi c'était absolument pas pensable ni possible.
Et quels sont à l'intérieur de votre parcours, Sylvia Nagasinski, les moments où très concrètement vous avez été affronté, y compris peut-être de manière douloureuse, à cette exigence de vérité?
Ah non, mais ça, c'est toujours ça, au fond. C'est peut-être la différence entre sentir la différence entre vivre dans la vérité et dire la vérité. Là, alors ça, c'est très très tardif, c'est mon approfondissement, par exemple, du cinéma de Bergman et de son rapport aussi au théâtre et de ses mémoires, puisque dans Drame des sexes, j'aime plus beaucoup ce titre, mais enfin, comme j'avais fait une trilogie, j'avais commencé par Politique des sexes, question de la parité qui avait été posée, les femmes dans la démocratie, et puis ensuite j'avais fait Métaphysique des sexes, écrit ce livre qui était une recherche de la place du masculin et du féminin, la signification du masculin et du féminin dans la théologie chrétienne, à la suite de la pensée grecque. Et donc, au moment où, avec un très grand plaisir, je me suis consacrée au théâtre, enfin, j'ai envie de réfléchir sur le théâtre, j'ai pris comme pôle, enfin, comme référence, les pièces d'Ibsen, celles de Strindberg, et ce cinéaste qui est impossible sans Strindberg et Ibsen, qui l'habitait complètement, non seulement il a monté beaucoup de leurs pièces, mais et Bergman. Et Bergman a, dans certains de ses textes, pas seulement dans les films, fait dire à ses personnages, oui, je peux dire ou ne pas dire la vérité. Par exemple, ce personnage dans les entretiens privés, qui dit à son mari, oui, je ne t'ai pas dit la vérité, mais j'ai besoin de vivre dans la vérité, donc je suis obligée de te la dire. J'ai rencontré quelqu'un, comme on dit, que j'aime. Parce que elle pourrait cacher la vérité, parce que ce serait mieux pour son mari, elle dit, va s'effondrer, faut pas que je lui dise. Mais en même temps, elle ne peut plus faire semblant. Et c'est la grande différence entre, justement, jouer, faire semblant, et ne pas faire semblant. Et dans la vie, je pense qu'il y a des limites à toutes les conceptions du faire semblant. Vous savez, rappelez-vous, chez Sartre, dans L'être et le néant, tout ce développement sur le fait que dans la vie aussi, on joue. Dans la vie aussi, on fait semblant. Et la fameuse séquence sur le garçon de café qui fait semblant d'être un garçon de café. C'était très fort. Ça nous a tous beaucoup, beaucoup frappés parce que ça mettait bien en évidence toute la part et la part énorme que dans nos vies sociales, qui dans nos vies sociales appartient au jeu. C'est-à-dire au comment dire, jouer avec les règles, respecter les règles, les conventions. Et là, vous jouez le rôle de celui qui questionne. Je joue le rôle de celui qui répond. J'essaie de répondre le mieux possible. Il y a mille choses qui m'est totalement impossible de faire. Je ne peux pas me lever, aller vous faire un baiser.
Pourquoi pas? Mais moi, je vais briser les règles alors de cette convention radiophonique, de ce protocole qui fait que nous parlons ensemble. Et je vous remercie de votre présence ce soir en direct à la radio. Je ne vais pas vous interviewer comme si je ne vous connaissais pas. Je vous ai connu quand j'étais extrêmement jeune et que je commençais des études de philosophie à la Sorbonne. Et je me souviens de vous. Vous qui enseignez l'amour de la philosophie. J'étais une jeune étudiante, extrêmement timide. Et vous, comme à d'autres jeunes femmes, vous avez donné l'assurance, vous avez donné la possibilité de croire en la philosophie. Pourquoi ? Parce que vous ne vous contentiez pas de nous donner, nous administrer des leçons autour de philosophes. Non, vous faisiez quelque chose de beaucoup plus important. En tout cas, pour moi, ça a été une étincelle. Vous vous battiez comme une lionne, Sylvia Nagasinski, pour que la philosophie soit enseignée et pas seulement dans les classes terminales. Vous aviez fondé un groupe qui s'appelait, je crois, le GREF, groupe de recherche études philosophiques.
Sur l'enseignement philosophique.
Et nous, on était des jeunes gens et on vous suivait et vous vous battiez pour que la philosophie envahisse l'école, pour qu'elle soit une méthode de pensée, une méthode de découverte de l'autre, une possibilité d'exploration de notre imaginaire. Et d'ailleurs, vous avez perdu.
Oui, parce que c'était peut-être un peu... On avait une position radicale, c'est-à-dire que souvent, il faut être radical pour progresser un peu. Et nous avions choisi, et j'ai fait des expériences en sixième, en cinquième...
C'est dommage qu'aujourd'hui, fin 2019, la philosophie soit pas enseignée dans les écoles.
Oui, mais j'ai eu une expérience extrêmement passionnante en sixième. Les élèves, d'abord, ils étaient absolument ravis parce qu'ils avaient deux professeurs au lieu d'un. Ça changeait absolument tout pour eux. La révolution, elle était d'abord là. Ensuite, ils se disaient, c'est formidable d'avoir accès à de la philosophie. On est tout petits, ils savaient pas ce que c'était. Et donc, ça les flattait. Bon. Et en même temps, tout à coup, nous, on était complètement désarçonnés parce qu'on étudie, l'épisode de la caverne chez Platon. Les prisonniers sont dans le fond, ils ne peuvent pas se retourner, ils ne voient que des ombres. Et finalement, c'est une allégorie du fait que nous vivons entourés d'ombres et qu'il faut aller au-delà et voir les idées. Alors, on décrit ces philosophes dans la caverne. Et alors là, il y a des enfants qui lèvent le doigt. « Madame, mais alors, qui est-ce qui vient leur donner à manger aux prisonniers ?» Là, tout à coup, on se regarde, on se dit « Platon a jamais parlé de savoir qui donne à manger. » Et on était totalement désarçonnés. Et pour expliquer que, voilà, c'était une allégorie. Et du coup, ça nous a permis de leur faire comprendre ce que c'était qu'une allégorie. Néanmoins, je pense que nous étions un peu radicaux. Et je ne crois plus maintenant qu'il faut enseigner la philosophie en sixième. Je crois qu'on pourrait l'enseigner à partir de la première, je crois qu'on pourrait accompagner de philosophie, parce que en première, on étudiait peut-être encore toujours les philosophes des Lumières. Et donc là, on est apte en première à découvrir ça. Je crois plutôt maintenant que, en fait, il faut déjà une culture relativement solide de la littérature, des sciences, d'une approche de la société et aujourd'hui probablement aussi de l'économie, de la réalité, pour au fond comprendre le type de questionnement philosophique. Et je ne suis plus du tout persuadée que à 10 ans on peut faire ce qu'on appelle une réflexion philosophique, poser les questions. Maintenant on peut réfléchir et on peut entraîner les enfants à réfléchir très très tôt, au moins à 7 ans, peut-être pas trop avant.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de la grande rockeuse Sylvia Nagasinski, Chuck Berry. Savez-vous passer par-dessus l'épaule de votre partenaire quand vous dansez le rock?
Non,
bien
non,
ah,
non, j'ai jamais fait
vous
ça.
Vous me décevez.
J'étais un peu grande.
Oui, ça n'arrange pas les choses.
Il faut vraiment avoir des partenaires très très costauds, hein. C'était pas toujours le cas, mais enfin j'en ai eu des très bons quand même. Et c'est vrai que c'était avec certains sports aussi, mais un des grands bonheurs de ma vie de jeunesse, mais ça a duré quand même très longtemps. C'est moins souvent maintenant. Le rock, c'est, vous voyez, ça, la danse, c'est comme la musique, c'est aussi une manière de vivre intensément. Et je suis toujours révoltée par toutes les conceptions de la vie. Je travaille beaucoup sur la vie et le vivant en ce moment, notamment dans une lecture de Heidegger. Et je suis toujours étonnée de voir combien on réduit la vie et le vivant à l'idée de conservation. Comme si la vie n'était faite que pour résister à la mort, cela s'est dit, ou pour se conserver, voire se reproduire. Or, et là je rejoins un certain nombre d'auteurs qui iraient de Bergson à Deleuze en passant par quelqu'un, en fait, la vie, c'est beaucoup plus quand même, et ça se voit dans la jeunesse, ça se voit dans le mot de vitalité, c'est une dépense. C'est une dépense d'énergie. Alors, faut aussi en accumuler de l'énergie, mais quand on est jeune, on en a beaucoup, on en accumule beaucoup. Et que toutes ces formes, y compris la pensée, ça requiert cette énergie, cette vitalité qui peut s'exprimer aussi physiquement à travers beaucoup de choses. L'amour aussi, d'ailleurs.
Alors, vous avez eu des cycles de thématiques de pensée au cours de votre parcours d'universitaire et d'enseignante et d'intellectuel écrivant des livres importants. Vous avez beaucoup parlé des sexes et du rapport sexe-genre. Vous avez beaucoup assouvi aussi, pour notre plus grand bonheur, votre amour pour le théâtre et le cinéma. Vous en parliez tout à l'heure à travers l'écriture d'un livre important consacré à Ibsen, à Bergman et au rapport entre les deux sexes. Et depuis effectivement, je dirais deux décennies au moins, vous vous intéressez à la possibilité qu'ont les sciences du vivant, qu'on appelle les sciences du vivant, à opérer peut-être des incursions sur nos vies qui pourrait redéfinir notre définition d'être vivant dans le monde. Pourquoi et comment est venue cette passion qui peut vous entraîner très loin et qui va vous entraîner, au cours de la publication de votre dernier opus d'ailleurs, à penser juridiquement, à avertir politiquement et à nous dire à nous tous, citoyennes et citoyens, attention, il est en train de se préparer des choses extrêmement graves.
Oui, j'ai des grands devanciers hein, dans ce domaine, la pensée de la technique, depuis les années 30 jusqu'à nos années, où un homme comme Jacques Testard, par exemple, que j'admire beaucoup et qui est un vrai chercheur et qui a préféré arrêter certaines formes de recherche plutôt que de basculer dans ce qui est aujourd'hui la grande production générale de tout. Et comment je suis arrivée là, c'est vrai que c'est, au fond, le retour à la... J'ai toujours posé la question du féminin, mais les choses se sont vraiment imposées à moi. Réfléchir à nouveau sur le rapport homme-femme ou sur les hommes et les femmes dans la société, ça a été avec la parité, c'est-à-dire pourquoi cette espèce de survivance d'une démocratie mâle, masculine, alors que le droit avait changé. Et donc, ça m'a fait retravailler sur ces questions du masculin et du féminin. Et ensuite, j'ai vu aussi les limites de l'égalité, c'est-à-dire le butoir sur la question de homme-femme, la question de la différence sexuelle ne se réduit pas à celle de l'égalité. Celle de l'égalité, elle est cruciale. Égalité des droits en tout, et l'égalité des hommes et des femmes, parce que ce sont tous des êtres humains, pour reprendre Aristote, c'est-à-dire des vivants doués de langage, de logos. Ça veut dire à la fois la raison, le discours, et dans la plupart des activités, des modes de faire ou de penser, les hommes et les femmes sont égaux et doivent l'être. Donc c'est un massif absolument énorme, que ce soit dans la politique, dans les sciences, dans tout. Mais en même temps, on ne peut pas, quand on étudie la question masculin-féminin, ne pas buter sur quelque chose d'irréductible qui n'a rien à voir avec l'égalité, qui est l'asymétrie. Il y a un point qui est le corps, d'où mon travail beaucoup aussi sur le corps depuis quelque temps, et qui est que ce corps, il est aussi partiellement semblable à beaucoup d'égards, vivant, il faut manger, il faut dormir, etc. Et puis, sur le plan de la sexualité au sens restreint du terme, il est asymétrique, mais pas seulement sur la sexualité. Il y a un certain nombre de traits sexuels secondaires, de caractères sexuels secondaires, comme la voix, par exemple, avec des différences. Je ne parle pas des tonalités, mais de la mue chez les garçons. Vous avez remarqué, par exemple, il n'y a pas de féminin à baryton. On peut féminiser tout, mais il y a des mots qu'on peut pas. Il n'y a pas de féminin, de baryton, etc. C'est juste pour illustrer. Les femmes ne jouent pas au rugby avec les hommes. Il y a aussi une raison assez solide pour ça. Et donc cette asymétrie, elle joue dans une certaine zone d'expérience. La zone érotique, ben un sexe masculin, c'est pas la même chose. Le sperme, c'est pas la même chose que ce qui se passe chez la femme. Et dans le désir, dans les pratiques sexuelles, et bien entendu dans la génération, dans la reproduction, il y a asymétrie. Aristote disait, l'homme engendre en dehors de lui, et ce dehors est crucial, ce regard extérieur à l'enfantement est crucial, et la femme enfante en elle-même. D'où mon travail ensuite sur le corps assez longuement, et aussi sur la différence, sur la distinction à faire entre sexe et genre, même si la notion de genre a été très utile en sciences humaines, en anthropologie, parce qu'elle montre tout ce qu'il y a de conventionnel, de culturel dans la manière dont les femmes sont pensées, définies, décrites, qualifiées dans une société, les femmes et les hommes, parce que c'est valable pour les deux. Mais en même temps, ce butoir sur l'asymétrie et ce que les cultures font de cette asymétrie. Et là, on entre dans les problèmes de rapport sexuel, rapport de la fécondité, la famille. Pourquoi, alors la famille c'est un truc énorme, famille patriarcale, pourquoi les femmes ont été enfermées littéralement dans la famille patriarcale pendant des siècles et dans d'autres sociétés aussi? Bien, tout simplement parce que les hommes ne pouvant pas disposer directement des enfants, vous imaginez si les hommes et les femmes n'avaient que des rapports fugitifs, puis ils repartent chacun de leur côté, à l'état, disons, dans un état quasiment de nature, les hommes ne sauraient même pas qu'ils ont engendré, ou s'ils ont engendré ou non. Et donc, déjà Augustin disait, ça fait quand même très longtemps, les hommes sont obligés de se marier, parce que s'ils ne se mariaient pas, ils ne connaîtraient pas leur fils. Donc, il faut avoir une femme et se dire que cette femme va vous être, en quelque sorte, votre femme, elle est privatisée, si j'ose dire, entre guillemets. Et c'est comme ça que c'est la construction de la paternité. Donc, j'ai travaillé sur l'histoire du mariage et sur l'histoire du statut du féminin, notamment dans la théologie. C'est mon ouvrage le plus... Comment dire? J'ai travaillé 4 ans, beaucoup, sur les textes qui se situent entre Saint Paul et Saint Augustin, pour comprendre de quoi il s'agissait. Alors, c'était pas seulement, évidemment, le mariage. Là, je viens de parler de l'histoire du droit. Mais c'était le statut du féminin comme figure de la chair, alors que l'homme est la figure de l'esprit. Ce serait beaucoup trop long à développer, mais c'est extrêmement important, ça habite toute notre culture, pas seulement la théologie, mais également la philosophie. Et si vous voulez, ça veut dire que l'asymétrie des sexes, elle a donné lieu dans notre civilisation à une interprétation métaphysique, c'est-à-dire le spirituel masculin, le rapport à Dieu, et le charnel, c'est le féminin, et c'est l'enfant, c'est la descendance de l'homme, c'est ce qui écarte l'homme de sa pure spiritualité. Il y a toute une thématique absolument passionnante dans cette relation de la spiritualité masculine, de l'autorité masculine, et du côté féminin charnel. Et c'est ça que j'ai voulu explorer. Et ensuite, alors, faudrait évidemment arriver, parce que le temps presse à notre époque, je suis beaucoup trop longue, pardonnez-moi. Qu'est-ce que ça devient, cette asymétrie, dans le monde dans lequel on vit? Et là aussi, la question du corps, elle revient, mais elle revient autrement. Elle ne se pose pas de la même façon. Et là, j'ai travaillé à la fois dans le tiers-corps, sur le don d'organes, la transplantation d'organes, et les modalités de cette transplantation à travers le don ou à travers, hélas, le marché dans beaucoup de régions du monde. Et puis ensuite dans l'homme désincarné, mais auparavant et avant tout dans Cours en miettes, que j'oubliais au passage, mais qui a été le moment pour moi crucial, c'est-à-dire tout à coup face à l'événement qui m'a sidéré. Alors là, je vous dis, ça m'a sidéré. L'événement de la possibilité d'utiliser des femmes pour faire des enfants pour d'autres. C'est apparu aux États-Unis dans les années 70 déjà. Et tout à coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai été extrêmement frappée par cette nouvelle possibilité grâce à l'insémination artificielle. C'est-à-dire qu'on n'était plus obligé de coucher avec une femme pour lui faire un enfant, mais grâce à l'insémination, on pouvait se servir d'elle comme mère. Et ensuite, grâce à la fécondation in vitro, on pouvait même lui implanter un embryon avec rien du tout de ses propres gènes. Donc elle devenait une simple mère porteuse, entre guillemets, ou mère de substitution, comme disent les Américains, la surrogate mother, ou même incubateur, comme disent les Ukrainiennes. Nous ne sommes pas des mères, nous sommes de simples incubateurs. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai vu se profiler quelque chose que j'avais compris avant, au fond, qui était un certain statut du corps féminin, déjà assez difficile, mais enfin, du corps féminin comme moyen pour les hommes de faire des enfants, autre chose aussi, objet d'amour, objet de la vie de couple aussi, je ne veux pas réduire tout ça à la femme, un moyen de production. Mais là, avec la maternité de substitution, là, on est vraiment dans une institution, disons, une pratique sociale, c'est pas une technique, hein, c'est une pratique sociale, ça utilise un être humain, qui fait de la femme un moyen de production pour soit des couples dont la femme ne pouvait pas enfanter, soit aujourd'hui, on le voit pour la revendication est beaucoup celle des couples gays, hein, c'est pas un mystère. La femme devient véritablement un simple moyen. Et là, je me suis dit, c'est très très grave, d'autant que ce moyen, eh bien, on est bien obligé de l'acheter parce que aucune femme, on l'a cherché au début aux États-Unis, hein, on a cherché des femmes qui seraient bénévoles, on n'en a jamais trouvé nulle part, donc il faut bien les indemniser, comme on dit, ou les payer. Et je me suis dit, tiens, tout à coup, on a une nouvelle forme, et là, j'étais pas la seule, j'en ai parlé à beaucoup de femmes, mais ça, c'est un discours qui ne passe pas, ou qui passe très difficilement. On n'est plus dans la prostitution sexuelle, on est dans la prostitution maternelle, ce qui pour moi n'a jamais signifié qu'il fallait critiquer les femmes qui faisaient ça, qui étaient la proie des prostitueurs souvent, ou même qui se prostituaient pour telle ou telle raison, ou des femmes qui acceptaient, qui consentaient, comme disent les Américains, et qui croient que du moment qu'elles consentent, elles sont libres, ça n'a jamais été pour moi une façon de stigmatiser ces femmes, mais toujours de stigmatiser un système, c'est-à-dire un marché.
Alors il y a quelque chose.
Un grand historien qui parle du marché de la prostitution, il dit que c'est quand même un marché de la chair. Bon, eh bien, ce qui se passe aujourd'hui dans la procréation, mais aussi dans la transplantation d'organes, ça n'est rien d'autre qu'un marché de la chair.
Alors, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre en vous, Sylvia Nagasinski. Il y a votre parcours, vous avez milité pour la parité, vous avez toujours été féministe, vous avez toujours été engagée dans tous les combats pour la reconnaissance de l'égalité femmes-hommes. Vous n'avez jamais transigé sur aucun de ces combats. Et là, vous êtes emparée d'un combat très particulier. Vous en parlez dans votre dernier ouvrage qui s'intitule « L'homme désincarné », la PMA et la GPA, qui sont des sujets éminemment politiques et brûlants aujourd'hui dans notre actualité. Vous dites, vous n'étiez pas tellement pour l'adoption de la loi très récemment par le gouvernement Macron de la PMA. Vous préférez l'adoption, au fond.
Oui.
À la PMA.
Oui, j'étais pour le mariage.
Je vous ai bien compris.
Pour le mariage et l'adoption, je voyais vraiment aucun problème puisqu'il y a pas de condition. La sexualité n'a rien à voir avec la façon de pouvoir élever très bien un enfant et de l'aimer.
Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre à l'intérieur de votre raisonnement, vous que j'admire, Sylvia Nagasinski, c'est pourquoi vous êtes aussi rétrograde, voire réactionnaire sur le plan de l'avancée des mœurs et de la possibilité pour notre société de reconnaissance de l'homosexualité, qui a aussi pour conséquence une vie pour les homosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants, d'avoir aussi des enfants, donc de passer par la PMA. Pourquoi est-ce que ce sont des arguments moraux pour le maintien d'une d'une famille traditionnelle. Et pourquoi vous stigmatisez tellement des modèles qui sont en train d'émerger et qui donnent satisfaction à des personnes qui étaient privées, par exemple, de la possibilité d'avoir des enfants ?
Alors, il y aurait énormément de choses à dire. Le mot réactionnaire, bon, évidemment, je ne l'accepte en aucun sens. Ce qui est rétrograde, c'est ce qui se passe en ce moment. Ce qui est rétrograde, c'est le marché du corps humain. Je crois que c'est très gravement rétrograde, parce que si vous voulez, pour dire les choses très simplement, c'est pas une question d'homosexualité en fait. Les homosexuels se sont saisis des possibilités qui s'offrent dans le monde contemporain. Moi, j'ai vécu assez longtemps pour voir beaucoup d'homosexuels. Ils n'ont jamais eu de problème pour avoir des enfants quand ils en ont voulu. Alors qu'on raconte pas d'histoire, ils sont pas stériles. Pardon de dire ça un peu brutalement. Mais j'ai tellement vu ça avec des couples de femmes, avec des couples d'hommes, avec des amis, avec ce qu'on appelle aussi la coparentalité. Même Butler, elle dit la coparentalité, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux finalement.
Donc c'est la démocratisation de ce genre de pratique qui vous gêne ?
Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec la démocratisation ni avec l'homosexualité. Ça a à voir avec le développement du monde contemporain comme monde de la production, du marché, du profit, disons le gros mot, c'est le capitalisme. On est dans un monde, alors des métaphysiciens ont dit, où être, ça veut dire être fabriqué. On est dans un monde où il y a une alliance extrêmement forte entre les techniques de production industrielle, la production industrielle et le marché. Et le marché, il sert à quoi ? Le marché, il sert à faire des profits le plus importants possible pour des gens qui disposent du capital. Alors, je vais le faire, on peut le rappeler. Moi, je suis de ce point de vue-là marxiste. Donc, je reste au fond attachée à ce schéma. Que dit ce schéma pour essayer de dire les choses très très vite ? Dans une économie de production traditionnelle, la marchandise et le but. On fabrique pour produire des marchandises, pour vivre mieux, pour bien vivre, etc. Et donc le schéma, c'est que l'argent est un intermédiaire entre les marchandises. La marchandise et la marchandise, c'est le schéma MAM. Bon. Donc on produit des marchandises et on vend ces marchandises, et il faut de l'argent pour acheter des marchandises et pour en produire. Et avec le capitalisme, et encore plus aujourd'hui le capitalisme financier, mais laissons ça de côté, l'argent est le but, la production est un moyen. C'est-à-dire qu'on produit pour vendre et non pas pour rendre les gens heureux. Et comme il faut produire de plus en plus et de plus en plus de produits, il faut de plus en plus de techniques pour innover, pour produire
toujours plus. Et ça se passe maintenant sur le corps des femmes.
Et alors, pas seulement, c'est que en produisant des marchandises, et là je reprends encore Marx, vous produisez aussi des consommateurs. Et vous devez produire de plus en plus de marchandises pour produire des consommateurs, pour acheter ces marchandises, et vous devez produire du désir de ces marchandises. Alors, vous appuyez sur des désirs qui existent déjà et puis vous en fabriquez. Alors, ce productivisme intense est aussi le monde du marché et de l'ultra-libéralisme. Tout devient marchandise. Et la reproduction humaine, après...
Y compris nos propres corps.
Oui, bien entendu. Nos propres corps à titre de ressources, par exemple, déjà, mais aussi de produits. Le bébé est un produit marchand aujourd'hui. Et donc, je vais prendre un exemple aussi que je trouve presque comique. Vous avez eu des industries, tout ça commence quand même, là il faut se rappeler ce qu'a décrit Testard dans L'œuf transparent. Tout ça commence avec la reproduction animale, c'est-à-dire c'est l'animal en tant que marchandise qu'il faut reproduire. Et ce sur quoi travaillaient à ce moment-là les ingénieurs comme Testard, les chercheurs, c'était comment transférer l'embryon d'un veau fait par une vache sélectionnée avec le sperme d'un taureau sélectionné dans une vache ordinaire. Comme ça, on aura beaucoup d'embryons, on va en transporter beaucoup et on va produire plus de veaux de bonne qualité. Eh bien, sans exagérer, on a transféré aux êtres humains des techniques qui étaient d'origine vétérinaire et qui étaient faites pour la productivité de l'animal. Ça paraît très cru de dire ça comme ça, mais il y a de ça. Et là, aujourd'hui, on nous dit, il y a une demande d'enfants. On constate qu'il y a une demande d'enfants et des personnes qui, soit n'auraient pas songé à faire des enfants, soit auraient, auraient dû le faire dans des conditions qui n'étaient pas les conditions des couples, non pas hétérosexuels, comme on dit, des couples mixtes, des couples hommes-femmes. À quoi ils ont affaire ? Ils ont affaire, dans le monde, à une grande offre du marché où on peut disposer de tout en payant. Des cellules, des spermatozoïdes, des ovocytes, des ventres pendant 9 mois, de la femme qui accouche, bien entendu, parce que ça, on n'en parle pas assez. Tout ceci est disponible pour le marché. Du coup, si j'ose dire, je schématise un peu, mais quand même, c'est ça. Du coup, l'enfant devient lui-même un produit, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, mais un produit disponible. Et il devient l'objet d'un désir, et vous, en 3 clics sur Internet, en 2 clics sur Internet, vous voyez se multiplier des tas et des tas et des tas d'images, de photos de petits bébés absolument ravissants, et vous vous dites, vous pouvez l'avoir, vous pouvez l'avoir. Et c'est ça qui me paraît dramatique, parce que on ne peut l'avoir en question que avant l'utérus artificiel dont beaucoup rêvent, comme vous savez. Eh bien, on ne peut l'avoir pour l'instant que en utilisant et en pratiquant ce qui me paraît une énorme violence à l'égard d'une femme. Et là, il faudrait revenir. Mais là, moi, je pense à toutes les femmes qui nous écoutent de ce que c'est que s'approprier finalement tout le temps d'une grossesse. On n'est pas enceinte juste avec son utérus, hein, on l'est avec pas seulement ses hormones, pas seulement avec ça, avec son psychisme, avec sa vie, avec ses émotions, etc. Et donc tout ceci conduit à acheter la vie d'une femme, acheter la filiation maternelle d'un enfant et acheter l'enfant lui-même. Il est évident qu'au terme du contrat, il faut vraiment aller lire sur Internet les contrats qui sont passés dans différents pays avec les mères porteuses pour se rendre compte. On ne nous en parle jamais de ça. On ne parle que les couples heureux. Des couples heureux, ah, ils ont un petit enfant, c'est merveilleux. On ne nous parle pas des contrats qui surveillent, qui prévoient de contrôler dans les moindres détails la vie du fameux incubateur en Ukraine ou de la surrogate mother aux États-Unis, sa sexualité, sa nourriture, ses distractions, tout est entièrement contrôlé. Et dans les contrats figurent des contrats, par exemple des conventions, des assurances d'essai pour la femme. On meurt encore en accouchant, ça arrive. Une femme qui a servi de mère porteuse en France il y a quelques années a perdu son utérus. Bon, hémorragie, etc. L'accouchement et la grossesse sont des choses d'une extrême intimité, c'est d'une extrême violence que d'en faire un produit marchand.
Ben merci beaucoup Sylviana Gazinski. Je vais lire la dernière phrase de votre ouvrage, passionnant car déployant de multiples pistes de réflexion. Vous dites, pour les libéraux humanistes de jadis, les droits de l'humanité imposaient les limites au marché. Ils se sont opposés à l'esclavage au nom de ces droits. Aujourd'hui, l'Europe et la France ont à choisir entre la perspective d'un marché total auquel rien ne devrait échapper et celle d'une société soucieuse d'instaurer des institutions justes. Nous continuons la conversation avec Sylviana Gazinski. Merci à Céleste, She's My Sunshine, que vous entendez en ce moment. Merci à Serge Viguier, qui était à la technique ce soir, à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, à Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer, Louise Douillet et à Lilian Allôme, qui a réalisé comme chaque soir, comme chaque mardi soir, cette émission. Et après le journal d'information, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka.